Anne Minier, vous êtes donc candidate à la députation, c'est-à-dire à la représentation nationale pour le Parti communiste français et pour le Front de Gauche également. C'est en tous les cas ce qu'il y a d'indiqué sur vos documents de campagne. Je pense que le plus simple, c'est déjà que vous vous présentiez, vous, et puis ensuite votre suppléante, puisqu'on a deux dames pour le Parti communiste.
Oui, c'est bien de le souligner parce que je pense que déjà, on n'est pas un cas unique en France. Mais
j'observe que ce n'est pas la parité quand même.
Alors là, c'est pas du tout la parité, mais moi je trouve que ça me fait plaisir de voir une liste pour une fois 100% féminine. J'ai vu qu'il y avait d'autres quelques cas en France, et c'est vrai que quand même souvent le candidat est un homme et la femme est souvent reléguée au rôle de suppléante. Donc bon, voilà, c'est une anecdote.
On a l'inverse en Aveyron, hein, mais bon.
On a l'inverse, on a un cas. Donc je vais me présenter, Anne Minier. J'ai 49 ans, pour ne pas dire encore qu'un cas. Je suis salariée dans l'industrie, je travaille donc chez Bosch. J'ai deux grands-enfants. Que dire de plus, mon passe-temps, c'est surtout la musique, la flûte traversière. Et je peux présenter aussi donc, Sylvie, ma suppléante, qui est tout d'abord une amie de longue date.
Donc, c'est Sylvie Foulquier-Cabiti.
Sylvie Foulquier-Cabiti. Qui est éducatrice spécialisée, 55 ans, donc dans la fonction publique hospitalière. Donc là, on a aussi la réunion, je dirais, à la fois du public et du privé. Si je suis candidate, au départ, c'est sur une proposition de Sylvie, effectivement, qui voulait qu'on fasse cette grande aventure ensemble, et de par nos idées communes, et qu'on se connaît depuis très longtemps, donc elle connaissait aussi mes idées, et j'ai dit oui.
Pas de mandat, pas même syndicaux ?
Pas de mandat, même syndicaux, non. Alors, il y a eu quand même, je dirais, des élections municipales en 2014, sur la liste à Rodez, l'Humain d'abord, avec le parti de gauche. Puis, en 2015, il y a eu des élections départementales, où là, on a réussi à construire un grand front de gauche, donc PC... Parti de gauche, ça a été une autre aventure, on continue aujourd'hui.
Dans les thèmes que vous avez souhaité évoquer, j'allais dire curieusement, c'est mon vécu à moi qui fait me dire curieusement, j'ai certainement tort, et vous allez nous le démontrer d'ailleurs, vous avez souhaité que déjà on commence par l'écologie. Pour une candidate communiste, on n'avait pas l'habitude, mais en même temps, tout le monde vient à l'écologie, donc il n'y a pas de raison.
Non, tout le monde ne vient pas à l'écologie, enfin certains y viennent... Peut-être sous forme de cliché, moi je dirais que l'écologie fait partie de ma vie quotidienne depuis des années. Quand j'ai l'écologie, par exemple, il y a eu la maison commune sur Rodez, un mode de pensée sur comment se nourrir plus sainement. Enfin, oui, je préférerais qu'on intègre l'écologie justement quand on va parler, je dirais, de notre mode de production. De l'agriculture, je pense que ça va être intégré aussi là-dedans, où je vais vous mettre des arguments écologiques à un certain nombre de...
Parlons des modes de production et de l'agriculture, mais en même temps, vous venez nous dire que vous avez un vécu personnel écologique. Vous nous dites deux mots là-dessus ou vous préférez pas ?
Le vécu, c'est tout simple. Je dirais, c'est de repenser son mode de consommation et d'essayer de faire des petits pas tous les jours, de se dire, pourquoi des paquets dans un supermarché alors que je peux acheter en vrac ? Pourquoi acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde alors que je peux trouver des petits producteurs locaux? C'est manger des fruits et légumes de saison, donc il y a des saisons plus ou moins tristes. C'est repenser tous nos produits d'entretien qui nous tuent, qui nous polluent, salissives.
On les remplace par quoi alors?
On les remplace par plein de choses, mais là on va peut-être faire, c'est une thématique 100% écologique. La lessive, ça peut être du savon noir fait par un petit artisan du côté de Clermont-Ferrand. Tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire après? Bicarbonate de soude, vinaigre. On peut repenser étape par étape tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous empoisonne et tout ce qui pourrait être en circuit court et local.
Et ça nous amène à l'agriculture, peut-être.
Et ça peut nous amener à l'agriculture, effectivement, parce qu'on est un département, majoritairement et très agricole. Alors, comme partout, ceci n'est pas un problème uniquement aveyronnais, parce qu'on le retrouve en Bretagne, on le retrouve dans beaucoup de régions agricoles. Il y a, cette disparition des petits agriculteurs, par rapport à de grandes coopératives, de grands groupes, français, voire européen, qui essaie donc, qui petit à petit engloutit toutes ces terres pour faire de l'industrie agricole et plus de l'agriculture, gérée proche et locale.
C'est le cas en Aveyron, il y a des exemples en Aveyron ?
En Aveyron, dans le nord Aveyron, effectivement, il y a de plus en plus, je dirais, de mutualisation vers des groupes, je dirais, importants. De toute façon, c'est le cas en Aveyron. Je pense que vous avez vu le nombre de suicides. J'ai pas les chiffres en tête, mais vous voyez bien des articles sur le suicide d'agriculteurs désespérés, de petits agriculteurs désespérés. On en trouve un peu partout en Aveyron. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y aurait effectivement, que ce soit au niveau des banques, des syndicats, du système de retraite, il y aurait, à mon avis, des choses à faire pour la protection des petits agriculteurs.
Mais là, peut-être que la future députée a une idée des choses à faire et fera des propositions.
Il n'y a pas une idée, il y a plein d'idées. Il y a sans doute la remise à plat aussi des normes, je dirais qualitatives et je dirais d'hygiène, par exemple. Là, j'ai un exemple parce que j'ai lu l'article il n'y a pas longtemps. Vous savez qu'on a un problème dans toute la production aviaire. Et que beaucoup de petits paysans sont obligés de tuer leur cheptel. Et ce qui m'interpellait, c'est de voir que les tout-petits subissaient de 20 à 30 contrôles par an, alors que les grands groupes industriels, donc je dirais de l'agriculture industrielle, en subissaient 3 ou 4. Pourquoi cette différence de traitement, par exemple, avec après des normes qui sont inapplicables sur des petites exploitations, trop onéreuses, ou qui peuvent tout simplement les mettre en faillite, enfin vous jeter l'éponge, par exemple. Il y a aussi le fait
Et quelle est leur solution alors à ces petites exploitations? Elles sont trop petites et elles doivent renoncer, elles doivent avoir un autre mode de production, et lequel?
On peut avoir un mode de production, je pense, c'est peut-être, je ne pense pas que ce soit idéaliste. Il y a déjà le fait de se regrouper en coopérative à but pas forcément lucratif, mais de mutualiser pour mieux vendre ses produits au niveau local. On le voit qu'il y a de plus en plus de regroupements de petits qui essaient de naître. Je pense que ça peut être une voie. Il faut aussi exiger une retraite, je dirais, décente des agriculteurs. J'ai vu que la moitié des agriculteurs vivaient avec moins de 354 euros par mois, avec des grandes disparités.
Et alors, comment revalorise-t-on ces retraites? On fait appel à la solidarité nationale, on augmente les cotisations des agriculteurs qui subsistent?
On peut tout simplement déjà moins donner aux grands et mieux répartir auprès des petits, tout simplement.
En dépit des cotisations qui auront été faites.
Je crois qu'il y en a certains qui touchent énormément de subventions. Je veux dire, les grands groupes touchent énormément de subventions. Je pense qu'il y a des répartitions entre les exploitations qui pourraient être beaucoup plus équitables et mieux réparties dans le temps. Au niveau national, je pense que c'est faisable.
Et au niveau, oui, mais quand vous parlez de subventions, jusqu'à...
Subventions, alors ça peut
proche,
être...
parce que ça
subventions
va changer,
européennes, mais... subventions voilà. Régionales, qui sont toutes vues à la baisse, et peut-être d'essayer de guerroyer pour ne serait-ce que les maintenir, voire les augmenter dans certains cas. Par exemple, les subventions sur tout ce qui est le biologique, ben, dans certains coins, on essaie de les donner plutôt justement à des grands groupes et puis à des petits exploitants. Il y a un certain nombre de choses à faire et à regarder.
Et, pour l'instant, l'essentiel des subventions, c'est l'Europe. Qu'est-ce que vous imaginez de changer, de faire changer au niveau à ce niveau-là? On est en train d'ailleurs là de parler des subventions à la production, on n'est plus en train de parler des
retraites. Et régionales aussi. Il y a aussi des subventions régionales. Je pense qu'on peut essayer... de légiférer là-dessus et de faire pression.
Donc, pour faire augmenter ces subventions, on prendrait l'argent où? Parce que c'est un peu...
Mais il y a de l'argent. Il y a énormément d'argent en France. Il y a de l'argent, je pense, qui est mal distribué. Et je pense qu'il y a aussi des organisations qui mériteraient d'être un peu plus transparentes. Et je pense qu'une meilleure répartition est tout à fait possible.
Vous avez des clés,
C'est des sujets, je dirais, à travailler, mais il y a de l'argent. Il y en a.
dans notre environnement, dans notre réalité, partout, mais singulièrement dans notre réalité, il y a une problématique de service public. Tous vos concurrents l'évoquent, hein, et ça vous préoccupe aussi, c'est indiqué dans vos documents de campagne. Ces services publics, quels sont ceux qui vous paraissent nécessiter le plus rapidement une intervention ?
Il y a beaucoup de services publics qui se font démanteler. Ben, je pense que je ne vais pas être originale si je vous dis la santé, l'éducation, les transports en commun, le système bancaire aussi, qui mériterait d'être peut-être renationalisé dans certains cas. Je pense qu'actuellement, on démantèle tout ce qui fait, je dirais, notre égalité et notre bien-vivre ensemble.
Qu'est-ce que ça apporterait à un système bancaire nationalisé ?
Bah écoutez, rappelez-vous, avant 1973, quand on avait la banque...
Oui, je me rappelle très bien du Crédit Lyonnais, qui était une banque nationalisée.
Je parlais de la Banque Nationale de France, par exemple. On peut très bien imaginer une revue, je dirais dans un sens plus égalitaire, de tout ce qui est système de crédit et d'épargne, par exemple.
Ça veut dire qu'on rémunérerait l'épargne davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui ?
On la régulariserait. On régulerait un petit peu tous ces systèmes. Avec une même... je pense. Donc, sur les...
Là, je voudrais quand même vous préciser, parce qu'on régule... Comment régule-t-on l'épargne ? Le crédit, bon, j'ai une petite idée, mais...
Tout simplement, je dirais, si au niveau de l'État, vous remettez sous forme de coopérative, je dirais, un certain nombre de banques, vous pouvez quand même imposer des limites sur des taux d'intérêt, des taux de rémunération, je dirais, de l'épargne, sans qu'il y ait cette concurrence et cette mainmise, je dirais, jusqu'au niveau européen, entre les banques. C'est d'arrêter de faire du fric pour du fric et devenir quelque chose de plus raisonné sur tout ce qui touche la vie des gens.
Et parce que la rémunération de l'épargne, elle sert à les rémunérer par les prêts, par les intérêts bancaires. Est-ce que en matière de services, est-ce que vous n'imaginez pas d'intervenir sur la tarification des services bancaires ? Parce que eux, il y a des disparités, la concurrence n'a
pas
l'air.
Oui, c'est pour ça, si je vous dis que si on met sous forme de coopérative un certain nombre de banques, ça veut dire qu'il y a des limites qui sont définies.
Il y a tellement de banques coopératives qui ne pratiquent pas forcément des tarifs extraordinaires, enfin, extraordinairement intéressants.
Il y a des banques coopératives, mais je le vois au niveau national, pas au niveau de coopération. Je sais qu'il y a des banques, par exemple, qui justement sont sur les énergies
bien connues,
renouvelables. Non, je n'ai pas la télé, donc je n'ai pas toutes les publicités. Sur le service public, on peut imaginer aussi, tout simplement, pourquoi, mettons, privatise-t-on tout ce qui est le traitement des eaux, un certain nombre de services au niveau de l'électricité. Pourquoi les éoliennes construites avec nos deniers sont sous exploitation privée. Enfin, je pense que dans la notion de service public, on peut justement mutualiser et remettre dans le domaine national un certain nombre de choses qui sont de l'ordre du bien commun.
Qu'a-t-on comme autre service public ? On a parlé des banques, on vient de parler...
Les banques ne sont pas réellement un service public actuellement, mais pourraient le devenir. Les transports, il y a aussi une grande différence, je dirais, entre l'accès aux services publics dans le monde rural et dans des villes aussi. Désertification, vous avez vu des écoles, de l'accès à la poste, enfin... Le service public, de toute façon, n'est pas là pour générer de l'argent. Il est là pour être au service de tous et peut même être déficitaire. C'est par définition
un service
publicitaire.
Donc être financé par le contribuable.
Oui.
Oui.
Mais financé par le contribuable, oui. Mais déjà, je vous répondrai, faisons la chasse à la fraude fiscale et déjà, on trouvera peut-être quelques sous.
Et la fraude fiscale, c'est une référence qui est souvent évoquée. Pas partout vos concurrents, hein, mais comment peut-on mieux lutter contre la fraude fiscale que ce qu'on fait actuellement ? Il y a eu des progrès, de fait, je ne dis pas qu'on est au top.
Des progrès, je pense que déjà, si on se donnait les moyens d'avoir des services dans l'administration qui y ait plus de moyens, justement, pour pouvoir analyser les dossiers.
Vous avez vu Bercy un jour, l'immeuble, les hectares de plancher? Apparemment, ils sont équipés, hein, quand même.
Ils sont équipés.
Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont vides, hein, mais c'est...
Sur la fraude fiscale, je ne sais pas exactement comme, quelle méthode technique utiliser. Il faudrait que je bosse la question. Mais je pense qu'on aurait pas mal de moyens.
Alors, à moins que vous vouliez dire qu'il y a des... qu'on ferme les yeux, ou que c'est possible aussi. Je ne sais pas, c'est peut-être votre propos.
On n'a peut-être pas les moyens de regarder partout.
Dans les services publics, vous ne nous avez pas parlé du numérique. Enfin, peut-être ne voulez-vous pas nous en parler, mais dans l'entretien préalable, on
oui,
en
parle. Oui, le numérique peut effectivement être un accès, je dirais, pour tous. Et on peut très bien voir le développement de tout ce qui est logiciel libre, en accès libre pour tous, dans les écoles, enfin dans les administrations. Je pense que là, effectivement, on pourrait faire des économies et donner vraiment le net pour tous.
Ces logiciels libres, donc, ils seraient accessibles aux particuliers aussi, je suppose. Quand même.
Ah bah oui, mais ils sont déjà accessibles aux particuliers. Ouais. Vous connaissez le fonctionnement du logiciel libre au départ ?
C'est le savon noir de l'informatique.
C'est pas le savon noir, je dirais que c'est la mise en commun. C'est tout simplement, à partir d'un programme existant, de quelque chose d'existant, chacun a le droit de s'en servir et de l'améliorer. C'est vraiment du collectif. Et pour tous.
D'accord. Et
c'est la philosophie de départ.
Ça existe effectivement déjà. Je ne sais pas si ça couvre vraiment tous les besoins, mais...
Je pense que si. Bien. On peut trouver à peu près tout.
Vous n'avez pas la télévision, mais vous avez un ordinateur.
J'ai un ordinateur.
On va passer en Conseil des ministres. On est dans le concret, là. Hein. Va passer en Conseil des ministres une nouvelle loi travail. Il sera sollicité l'autorisation de l'appliquer par ordonnance à la représentation nationale. Qu'est-ce que vous pensez de façon un petit peu détaillée de cette nouvelle proposition, comme d'ailleurs de l'ancienne ?
Alors, je ne pense absolument pas le plus grand bien de l'ancienne, déjà. Elle a suscité pas mal de manifestations, de tollés. Je pense que de renforcer cette loi cet été ne va pas être une bonne chose. Et c'est pour ça que je pense que toute la gauche devrait être unie au moment de légiférer. Parce que si ça se passe par ordonnance, il y aura simplement un seul aller et vient entre, je dirais, les députés et les sénateurs. Bon, ce qui laisse quand même une chance de pouvoir se positionner. Donc tout n'est pas acquis. Hein. Ordonnance ne veut pas dire qu'on fait exactement ce qu'on veut. Et ça ira beaucoup plus vite. Je pense qu'il ne faut pas voir cette loi passer.
Donc on a fait le tour d'à peu près tous nos sujets. Si vous voulez conclure, c'est le moment, ça vous appartient complètement.
Alors ma conclusion serait de dire que les législatives sont sans doute les élections les plus importantes parce qu'elles permettent de légiférer. Légiférer, c'est proposer des lois ou justement refuser des lois, ou les mettre en discussion. Et les lois, c'est quand même, je dirais, notre vie, c'est le cadre de notre vie sur toutes les thématiques au quotidien. Et je dirais une autre chose aussi, c'est que la représentation des employés, des salariés, des gens qui ont très peu de temps aussi dans leur journée et peu de moyens financiers, sont sous-représentés, je dirais, parmi les députés. Voilà, et je crois qu'il faut laisser une chance à ce que des gens, je dirais, dans la vie active, puissent justement...
Ce que d'autres appellent la société civile.
La société civile puisse s'exprimer et donner leur point de vue, qui, à mon avis, est souvent concret.
Bien. Eh bien, Anne Minier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes candidate dans la première circonscription de l'Aveyron pour le Parti communiste et le Front de gauche. Et merci.